Chapitre 10 La victoire de Gabaon. Avant d'entrer dans ce nouveau sujet, je désire faire une ou deux remarques incidentes. Plus je repasse ces premiers chapitres de Josué, plus je suis frappé du rôle que Satan y joue. Il a des combinaisons de circonstances pour atteindre son but. Par elles, il mène les hommes sans qu'ils s'en doutent. Il leur souffle des résolutions qu'ils croient prises par leur libre arbitre et, trop souvent, hélas, il arrive à son but, en employant même des enfants de Dieu qui ont eu la folie de l'écouter. Au milieu de toute cette formidable activité, il se cache, et aucun symptôme extraordinaire ne laisse même soupçonner sa présence. Si peu apparente, en somme, que le monde nie même l'existence de Satan. Qu'a-t-il à faire, dit-on, avec des circonstances si naturelles, avec les ambitions, les disputes, les combats de deux peuples? Puis, après tout, qui a raison dans cette lutte? De quel côté est le bon droit? Quel est l'agresseur? Où trouve-t-on l'esprit de cruauté, d'extermination et les embûches? Pesons les faits, soyons équitables, décidons. J'écoute, je pèse et me décide pour les Cananéens contre Israël. Pour Satan contre Dieu. L'ennemi a réussi, par les faits eux-mêmes, à me cacher Dieu. Mais la parole fait exactement le contraire. Elle me révèle Dieu, me le fait connaître dans sa plénitude en Christ. Il apporte dans sa personne la bonté, la vérité, la lumière, la justice, la sainteté parfaite. Aussitôt Satan est mis à nu. Ses desseins, ses ruses sont exposés au grand jour. L'âme, connaissant Dieu, n'a plus de difficulté pour juger du bien et du mal dans ce monde. La lumière manifeste toute chose. Mais Satan ne se tient pas pour battu. Il s'attaque pour tromper les âmes à ceux-mêmes qui mettent Dieu en avant et sont les porteurs de son témoignage. Après avoir fait chez eux son œuvre corruptrice, il dit « Ces gens sont-ils donc meilleurs que les autres ? Ils parlent de séparation. Voyez à Caen, les Gabaonites. D'humilité. Voyez leur confiance en eux-mêmes, leur orgueil spirituel. » Ces arguments trouvent accès dans les âmes à qui l'ennemi réussit à faire rejeter Dieu. Une autre remarque se rattache à celle-ci. Satan a deux grands moyens pour corrompre les enfants de Dieu. Le premier, c'est l'interdit, le monde introduit dans le cœur. Mais ce mal étant jugé et le cœur humilié, l'ennemi ne se tient pas pour battu. Son second moyen, c'est l'alliance avec Gabaon, le monde introduit dans la marche. Dans toute notre carrière chrétienne, nous avons à nous garder de ces deux embûches, et toujours de nouveau cette double question se pose. Le Seigneur suffit-il à mon cœur, ou chercherai-je l'attraction des choses que le monde me propose? Y a-t-il moyen pour nous de rester chrétiens, rien que chrétiens dans notre marche, d'être complètement séparés du monde, même du monde religieux, de ne pas lui donner la main, de n'entrer dans aucune association quelconque avec lui? Avec ces deux pièges, Satan a parfaitement réussi à entraîner les rachetés et y réussit encore chaque jour. L'Église a commencé par l'interdit. L'histoire d'Ananias et de Saphira est celle de sa première chute. Ensuite, elle est entrée en alliance avec le monde. Pour ne parler que des principes de cette alliance, il se montrait déjà du vivant de l'apôtre. Ce dernier les dénonce dans la première épître aux Corinthiens. Ils auraient aimé à attirer les sages pour faire triompher le christianisme. Leurs motifs étaient les motifs du monde. Ils étaient charnels. Tels sont les principes de Gabaon au milieu de l'assemblée de Dieu. Israël a reconnu sa faute de Gabaon, l'a confessée par ses actes. Il en porte l'humiliation permanente et, comme nous l'avons vu, il est approuvé de Dieu en cela. Mais Satan n'est pas au bout de ses artifices. Une nouvelle confédération de rois s'organise, dirigée cette fois contre Gabaon et non pas contre Israël. Les Gabaonites envoient vers Josué à Gilgal en disant « Ne retire pas tes mains de tes serviteurs. » Israël montera-t-il? Quoi qu'il fasse, il est environné de dangers. Ne pas monter, laisser exterminer Gabaon par d'autres, c'est un excellent moyen de se débarrasser des conséquences de sa faute. Mais que devient l'humiliation? Où serait la droiture envers Dieu et envers les hommes? Monter, c'est avoir l'air d'accepter définitivement l'alliance avec le monde. Satan est coutumier de pareils dilemmes. Que de fois il les a mis en travers du chemin de l'homme par excellence qui fut parfait en toutes choses. Comment nous tirer de la difficulté? Par la simple dépendance de Dieu réalisée à l'école de Gilgal. La leçon du piège de Gabaon est apprise. Satan est déjoué. Toutefois, nous en avons déjà parlé au courant de ces chapitres. Le fait seul d'être à Gilgal ne préserve pas Israël. Les Gabaonites avaient trouvé Josué et les hommes d'Israël au camp de Gilgal, chapitre 9, verset 6, lorsqu'ils étaient montés pour leur tendre le piège dont nous avons vu le résultat. Ce qui manque souvent, c'est l'application pratique de la croix de Christ à tous les détails de notre vie dans la chair. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Il faut non seulement se tenir à Gilgal, verset 6, mais monter de Gilgal, verset 7, et retourner à Gilgal, verset 15. La circoncision et Gilgal sont deux choses inséparables. La première ne suffit pas à elle seule pour nous garantir de chute. Gilgal sans la circoncision ne serait bon qu'à faire des moines, car l'homme naturel lui-même peut s'y complaire pour s'en glorifier. Colossiens 2, versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Selon les commandements et les enseignements des hommes, qui ont bien une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité en ce qu'elle n'épargne pas le corps, ne lui rendant pas un certain honneur, pour la satisfaction de la chair. Mais, comme nous l'avons dit, ce jugement de soi produit la dépendance qui se montre dans d'heureuses communications avec Dieu, lesquelles l'âme n'avait jamais connues auparavant à ce degré. L'Éternel parle à Josué, verset 8. Josué parle à l'Éternel, verset 12. Et l'Éternel lui répond, verset 14. L'encouragement, la puissance et la victoire sont les fruits bénis de cette dépendance qui tient notre âme en relation habituelle avec lui. Ah, maintenant l'Éternel n'était plus obligé de prendre parti contre eux, comme à Haï, et pouvait combattre pour eux, versets 11 à 14. Aussi les voyons-nous remporter la victoire la plus signalée que la parole ait jamais enregistrée. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, verset 14. Un jour qui dura 24 heures, afin de permettre au peuple de glaner jusqu'au dernier fruit de sa victoire. Le Dieu de la terre et du ciel, le Dieu de toute la création, déclare hautement ainsi qu'Israël est l'objet de sa faveur spéciale. Ce peuple battu devant Haï, trompé par Gabaon, et duquel la conduite aurait pu lasser la patience même de Dieu, mais un peuple jugé, humilié, ayant des cœurs brisés, que Dieu ne méprise point. Et ce Dieu écoute la voix d'un homme. Cher lecteur, nous sommes tous dans cette même condition. Si faible qu'on soit, on peut s'adresser à lui par l'Esprit de Christ et monter jusqu'aux suprêmes demandes. Rien n'était trop élevé pour Josué. Il connaissait le cœur de l'Éternel et savait quelle place y tenait son peuple. Il pouvait demander qu'il mît les cieux, le soleil et la lune au service de ses bien-aimés. Dès lors, Israël marche de victoire en victoire. Point d'arrêt. Il faut défaire les ennemis jusqu'au dernier. Verset 19. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et frappez-les en queue. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés en votre main. Les cinq rois sont pris et pendus à cinq arbres. Une expérience précédente aide Josué à discerner son chemin, parce qu'elle a été faite avec Dieu. Josué a l'habitude de ce qui convient à la sainteté de Dieu, versets 26 et 27. Et après cela, Josué les frappa et les fit mourir, et il les pendit à 5 arbres, et les pendirent aux arbres jusqu'au soir. Et au temps du coucher du soleil, il arriva que Josué commanda, et on les descendit des arbres, et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et on mit à l'ouverture de la caverne de grandes pierres, qui sont demeurées jusqu'à ce jour même. Rempli de courage par la parole de Dieu, au verset 8, et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les ai livrés en ta main, pas un d'entre eux ne tiendra devant toi. » Il encourage lui-même le peuple, au verset 25. Et Josué leur dit, « Ne craignez point, et ne soyez pas effrayés, fortifiez-vous et soyez fermes, car l'Éternel fera ainsi à tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Makeda, Libna, Lachis, Gézer, Églon, Hébron, Debir sont leurs étapes victorieuses. Ils prennent possession de leur héritage, et puis ils s'en retournent au camp de Gilgal. Verset 43.